Oui, donc ça va pas être facile de prendre la suite, mais on va essayer. Je suis copain bas. Oui, en fait, je vais faire un petit lien entre nos deux exposés que nous avons faits. C'est que moi, de mon côté, j'ai beaucoup axé sur une croyance qui est l'homme descend du singe. Et lorsque l'être humain croit ça, eh bien, ça le rend méfiant. Comme le disait Céline, ça amène l'être humain à se dire « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est-à-dire, l'être humain est un animal. Donc, un animal, quand on ne le connaît pas, quand on ne le dompte pas, c'est dangereux. Donc, l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, on est forcément méfiant. Hein? Et cette croyance de l'homme qui descend du singe et ce problème de la méfiance sont deux des plus gros maux de l'humanité actuelle. C'est ce qui crée vraiment d'énormes problèmes dans la société, c'est ça qui crée toute la violence et tout le fait que l'être humain se laisse aller, est esclave, n'est pas lui-même, etc. Ça repose là-dessus. L'homme descend du singe, donc je crois que l'homme est un loup pour l'homme, donc je suis méfiant. Et comme je suis méfiant, j'ai plus de relations, et comme j'ai plus de relations, même si je suis un mec super intelligent, très créatif et tout, et qui a des supers idées, je me dis, de toute façon, je suis tout seul dans mon coin, de toute façon, il n'y a que moi qui ai ces idées-là, je ne vais pas changer le monde à moi tout seul, et voilà. Comme ça, le monde restera toujours pareil. Mais il y a 497 millions de gens qui pensent ça. Et si tous ces gens-là se donnaient la main, même ne serait-ce qu'un 1% d'entre eux, je peux vous dire, en 3 jours, le monde, il change. Seulement, voilà. Tout le monde se dit, je suis tout seul dans mon petit coin, je suis isolé, je suis méfiant avec les autres, donc j'ai pas de relation, et je crois que je suis tout seul à penser ça, donc je fais rien. Et voilà. Et ça tient comme ça. Le petit malin qui dirige le monde, là, voilà, il a tout compris. On fait en sorte que l'être humain soit le plus faible possible en lui faisant croire qu'il descend du singe. Ensuite, on s'arrange à ce qu'il soit méfiant. Hein, t'es qu'un animal, donc fais gaffe, les animaux c'est dangereux, tu vas te faire bouffer les fesses et tout, donc t'as intérêt à être méfiant. Garde les autres à distance, échange le moins possible. Tu veux communiquer quand même? Pas grave. On te donne la panoplie, téléphone cellulaire, ordinateur, internet, voilà. Tu peux communiquer même en Australie. Génial, même en Chine, tu te rends compte? Oh, la communication, tu vas communiquer avec des milliers de personnes tous les jours si tu veux. En réalité, tu communiqueras plus du tout. Parce que téléphone cellulaire, ordinateur, internet et tout ça, c'est communication zéro. Ça aussi, c'est un mensonge. On vous fait croire que vous communiquez avec des gens, en fait, vous communiquez avec personne. Ça, je ne vais pas le développer parce que je ne vais pas trop vous faire peur quand même. Donc, je n'en parlerai pas plus. Mais ça aussi, c'est illusoire. C'est pour vous faire croire que vous êtes en communication comme jamais. Il y a des grands naïfs qui croient qu'on est une civilisation de communication comme il n'y en a jamais eu dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. Là aussi, quand j'entends ça, je suis mort de rien, je me roule par terre. Parce qu'il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, une société où il y ait autant de gens et aussi peu de communication. La communication, la seule, la vraie, l'unique, c'est je rencontre Albert, Gérard ou Géraldine, je lui serre la main et je discute avec. Ça, c'est de la communication. Tout le reste, c'est bidon, c'est illusoire, c'est faux. Et ça nourrit la méfiance. Quand vous êtes derrière de petits ordinateurs, pianotés sur Internet, vous envoyez un email, pas de problème, vous risquez rien. Personne ne vous fera rien. Vous envoyez un email à un mec qui est à 344 km de chez vous, d'ici, qui monte dans son tas de ferraille à roulettes et qui vienne vous casser la figure, vous avez le temps de penser à un plan B. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous pouvez rester méfiant, tranquille, dans votre petite corde de chair, et il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout ça, c'est pareil, voilà, ça repose là-dessus. Tout ce qu'on vous a expliqué, ça repose sur deux petites choses, dans rien du tout. Vous faire croire que vous êtes qu'un animal et que vous êtes dangereux. Et donc, les autres sont dangereux. Bon, vous êtes sympa. C'est les autres qui sont dangereux. De toute façon, peu importe ce que vous croyez, le principal, c'est que vous y croyez. Comme ça, vous êtes méfiant. Et comme ça, vous n'avez pas de relation. Et ça vous mène à quoi, finalement? Ça vous mène à la désespérance. Parce que c'est pas une vie, tout ça. Alors, il faut en changer. Et donc, pour en changer, il y a la vie spirituelle. La vie spirituelle, il y a différents points de vue. Il y a un point de vue bien connu qui nous vient d'Orient, qui est le concept de sentier, hein, ou de voie, hein, on dit une voie spirituelle ou un sentier spirituel, parce qu'en Orient, en fait, ça commençait comme ça, l'individu menait sa vie dans sa famille, dans la société, et puis un jour, en général à l'âge adulte, même parfois bien avancé déjà, eh bien il quittait sa famille, il quittait son travail, il quittait le monde, et puis il allait vivre dans un ashram, hein, dans une communauté, complètement hors du monde, au fin fond d'une forêt, au sommet d'une montagne, dans une grotte, etc. Donc c'était réellement un chemin qu'il devait parcourir et tout lâcher. Et en général, il donnait tout, tout ce qu'il avait. Il donnait tout au maître, quoi, à son gourou, quoi. Donc c'était vraiment un sentier, un chemin au sens propre, au sens concret, matériel. Donc l'idée de sentier, de voie spirituelle, nous vient de là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. En Occident, le concept de sentier, ou de cheminement, ou de voie que l'on emprunte, c'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Le chemin, il est dans notre cœur, comme expliquait Céline tout à l'heure. C'est le cœur qu'il faut ouvrir pour pouvoir entrer à l'intérieur. Parce que si la porte est fermée, si on veut commencer son sentier, quand on arrive que la porte est fermée, on se cogne dedans. Donc ça fait mal au nez en général, parce que le nez, vous avez remarqué, il dépasse par rapport au reste du visage. Donc en général, c'est le nez qu'on se cogne en premier. Il faut dire, oh, c'est ça, ouais, spirituel et tout, il fait mal au nez. Maintenant que je parle comme ça, je veux pas l'intérêt, je retourne à ma vie matérialiste. Voilà, donc c'est dommage, quoi, parce que... Donc il faut insister, il faut cogner à la porte et tout, mais encore mieux, il faut faire ce que Céline disait, développer la confiance. Parce que la confiance, c'est une des principales clés qui ouvre le cœur. Et là, vous passez la porte, vous entrez dans votre cœur, et au miracle, là, vous allez découvrir un autre monde. Et le sentier en question, il est à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez plus besoin de faire comme dans l'Antiquité, comme ils faisaient en Orient, quitter votre famille, votre travail, votre vie matérialiste adorée, votre chien, votre superbe télé, votre belle bagnole en ferraille, vous pouvez tout garder si vous voulez. Parce que le sentier, il est en vous. C'est là qu'il faut aller le chercher, il n'y a pas besoin d'aller chercher nulle part. Il y a des gens qui vont encore faire le voyage en Inde, d'Amérique ou de chez vous, ils vont jusqu'en Inde ou d'Europe aussi. Mais c'est ridicule, parce que le chemin, il est en eux. En plus, ça fait des économies, vous pouvez rester chez vous. Vous avez juste éventuellement un coussin pour vos fesses, et vous vous asseyez dessus et vous méditez. Vous avez besoin d'aller nulle part, parce que le sentier spirituel, il est en soi. Donc ça, c'est ça le premier concept. Quand nous aussi, on parle de sentier spirituel, nous, notre concept, c'est que le sentier spirituel, il est en soi. Tout le chemin d'évolution se fait à l'intérieur de soi. Dans l'Antiquité, c'était à l'extérieur de soi. Les Nordiques, dont j'en reparlais tout à l'heure, c'était toutes sortes d'épreuves qui devaient vivre dans le monde extérieur, au contact de la nature. Ils devaient se confronter à la nature, par exemple. Aujourd'hui, le chemin d'initiation, il est en soi, à l'intérieur de soi. On va découvrir différents mondes, différents niveaux de conscience, à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est le premier point de vue sur l'évolution. Le deuxième point de vue sur l'évolution, c'est un concept qui vient plus tôt d'Occident, c'est celui de quête ou de recherche. Donc par exemple, on va parler de quête du Graal. Donc quête, ça veut dire à la fois un peu comme enquête, c'est-à-dire faire une recherche, et puis aussi c'est la même racine que question ou questionnement. Parce qu'en fait, c'est l'art de se poser des questions, une quête, finalement. Donc ça implique le concept de développer sa pensée. Ça, c'est typiquement occidental. Bon, c'est normal, dans l'Antiquité pré-christique, de toute façon, l'être humain ne disposait pas d'une pensée aussi développée et aussi sophistiquée que celle que nous avons aujourd'hui. D'où le concept de quête qui est plutôt occidental et donc récent, très moderne, si je puis dire. Donc, l'art de se poser des bonnes questions. Donc, la quête, c'est ça. C'est ce principe-là où, en fait... on est sur notre sentier, donc forcément on veut atteindre un but, réaliser un idéal, découvrir qui l'on est, etc. Et cela implique donc une recherche, une quête.
Vie, ce n'est pas votre vie.
Et donc de se poser des questions. Et donc aussi de se considérer comme, on dirait, un laboratoire vivant. Puisque ça se passe en soi, le sentier, et la recherche aussi, ça se passe en soi. La seule chose extérieure qu'on puisse faire, à la base, c'est lire, par exemple, des ouvrages de spiritualité. Comme la vie spirituelle, c'est le meilleur, comme vous le savez. Il y a d'ailleurs un chapitre qui explique comment lire. Parce que c'est vrai, on croit qu'on sait lire, comme on nous a appris à l'école. Mais en fait, on ne sait pas lire. On sait lire des livres matériels, mais on ne sait pas lire des livres spirituels. Ça peut vous paraître idiot, mais c'est comme ça. Il y a une manière de lire des livres spirituels. Parce que quand quelqu'un écrit un livre de spiritualité... Si c'est vraiment quelqu'un qui accède au monde spirituel et qui sait vraiment écrire de la spiritualité, c'est rare, mais ça existe, cette personne-là sait comment écrire et elle écrit d'une manière particulière qui permet à son lecteur de lire à plusieurs niveaux ce que la personne a écrit. des romanciers, des scientifiques, des gens qui écrivent sur des choses matérialistes, ils écrivent d'une certaine manière, comme on leur a appris, mais ils savent pas, ils connaissent pas ces manières-là d'écrire. Hein, moi, j'en connais plusieurs manières d'écrire. Et ces manières d'écrire, en fait, aident l'individu à comprendre les choses. Elles aident justement son questionnement, elles aident la possibilité de révéler des choses en lui, que des choses émergent de lui en lisant, simplement en lisant, mais à condition qu'il sache comment lire. Hein, donc ça, je ne le développe pas, c'est dans mon livre où j'explique comment lire de manière spirituelle. Après, il ne suffit pas de le lire, il faut le mettre en pratique, bien sûr. Mais ça vous permet de lire d'une certaine manière et donc de comprendre certaines choses que quelqu'un qui ne sait pas lire comme ça ne comprendra jamais. Et il lira un livre de spiritualité juste comme il lira un roman, mais il ne va pas comprendre grand-chose. Parce qu'en fait, si c'est un vrai livre de spiritualité, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et ce n'est que en sachant lire, spirituellement parlant, qu'on peut découvrir ces niveaux de lecture. Et donc, le concept de quête ou de questionnement implique, ce que je disais, être un laboratoire vivant. Ce que j'appelle par là, c'est en fait travailler sur soi, travailler à se transformer. Ben, comme ferait un artisan, par exemple, qui va travailler sur le bois, ou un autre, un sculpteur, par exemple, qui va travailler sur la pierre pour lui donner une forme, pour lui donner quelque chose qu'il a envie de faire passer. Eh bien, l'aspirant qui pratique une quête spirituelle va travailler sur lui. Comme l'exprimait tout à l'heure Céline, pour devenir lui-même une œuvre d'art. En fait, le plus grand artiste, c'est celui qui s'auto-crée, hein, qui va s'auto-créer lui-même, qui va travailler sur lui. En fait, sa matière première, sa substance première, ne sera pas un tableau ou de la pierre ou du bois, par exemple, pour peindre ou sculpter, ça va être l'être humain qu'il est, lui-même. Et il va donc s'auto-créer, il va devenir lui-même sa propre œuvre d'art. Bon, sauf que ça va prendre toute sa vie, ou parfois plusieurs vies, mais c'est ça. Et donc, c'est ça aussi, devenir un laboratoire vivant, c'est travailler sur soi, c'est-à-dire transformer ses défauts, pour qu'on arrive un jour à ne plus en avoir. C'est développer au contraire des qualités, des vertus, faire descendre des capacités en soi, par le lien notamment à l'ange, dont parlait Céline, ou le lien à l'âme céleste, le moi supérieur. On peut faire descendre des capacités, des qualités, des vertus, et puis après les révéler à travers soi. Oui, à travers soi, oui. Et dans le monde, du coup. Donc ça, c'est le concept de laboratoire vivant ou de travail sur soi, donc le concept de quête spirituelle. Puis il y a un troisième autre point de vue par lequel je vais terminer, qui celui peut-être qui devrait normalement vous parler encore plus, c'est celui qu'on appelle l'héroïsme. Et que je disais au début, ça commence par un H. Le concept d'héroïsme ou d'aventure héroïque. D'où vient-il ? Il vient des peuples d'Europe du Nord. Bon, je ne peux pas remonter jusqu'à l'origine parce que ça nous entraînerait trop loin, mais sachez qu'il y a une très très ancienne sagesse dans les pays d'Europe du Nord, la plus ancienne, qui a donné naissance à des peuples qui ont acquis certaines choses de ces anciens sages, on peut dire, des premiers grands sages de l'humanité. Ce qu'ils ont acquis particulièrement, c'est un corps éthérique, hein, ce qu'on appelle le corps éthérique ou le corps vital, le corps de vie, le corps d'énergie, un corps éthérique donc très puissant. Le corps éthérique, c'est ce qui donne la vitalité au corps physique. Le corps physique, lui, il ne vit pas par lui-même. Le corps physique est incapable de vivre par lui-même. Les scientifiques cherchent la vie, hein, les biologistes cherchent la vie dans le corps physique. Ils ne la trouveront jamais car elle n'y est pas. Dans le corps physique, on ne peut trouver que la mort. On ne peut trouver que le chaos. Car le corps physique en lui-même, il est incapable de vivre. D'ailleurs, on le voit bien, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que ça veut dire la mort ? Ça veut dire que son corps éthérique s'arrache à son corps physique. Ou si vous voulez, le corps éthérique qui habituellement prend soin du corps physique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la vie, hein, du premier souffle jusqu'au dernier, à ce moment-là, le corps éthérique se détache du corps physique et laisse le corps physique à lui-même. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, en deux ou trois jours, vous voyez dans quel état il est le corps physique. Hein, il tombe en décomposition. Le corps physique, lorsque le corps éthérique n'est pas là, il tombe en poussière, il redevient poussière. En fait, il implose. Parce que le corps physique, il est tellement complexe, d'une part, et tellement dense, tellement matériel, d'autre part, qu'il ne peut pas vivre. C'est impossible. Il lui faut le corps éthérique qui maintient une cohésion au corps physique et qui lui apporte la vitalité dont il a besoin. Mais dès que le corps éthérique s'en va, le corps physique, il implose. Parce qu'en fait, il redevient chaos. Et donc, c'est pour ça qu'il disparaît et qu'il tombe en poussière très rapidement. Ces nordiques, ces anciens, très 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 anciens peuples nordiques, eux, avaient hérité d'un corps éthérique très très puissant. Tellement puissant qu'on peut dire que c'est comme si ça débordait d'eux. Ils avaient une vitalité fabuleuse qui comme débordait d'eux. Ils avaient comme un surplus d'énergie. C'est-à-dire que leur corps éthérique, non seulement il était largement suffisant pour qu'ils aient une bonne vitalité, que leur corps physique soit en santé, etc., mais il débordait d'énergie. Et donc cette énergie, il la mettait en application. Et c'est ça qui est devenu ce qu'on appelle le courage. Ce qu'on appelle le courage aujourd'hui, ça vient de ces gens-là. Donc là, je parle de plusieurs milliers d'années dans le passé, bien sûr. Ces peuples nordiques qui ont reçu ce corps éthérique très puissant, ça leur a permis d'être courageux, de faire preuve de bravoure. On peut dire que ce sont comme les ancêtres de la chevalerie. Et ces gens-là aussi étaient généreux. Parce qu'en fait, ils débordaient de cette énergie. Ils n'avaient qu'une envie, c'est la donner. Et donc ça leur donnait une grande présence d'esprit aussi. En pleine nature, dans une nature déchaînée et tout, ils étaient capables de ne pas paniquer, de garder leur présence d'esprit, de savoir quoi faire et comment le faire. Et donc, quelle était la mission de ces gens-là, en dehors de développer les qualités dont je viens de parler? C'était de permettre à l'esprit humain, le jeu, de s'incarner profondément, jusque dans la volonté. Jusque-là, en Orient, les êtres humains ne s'incarnaient pas jusque dans la volonté. Ils s'incarnaient dans la pensée, le sentiment, mais ils n'allaient pas jusque dans la volonté. C'est ce qui fait que les orientaux, par exemple, sont des gens qui ne se sont, et encore maintenant, et encore aujourd'hui, jamais vraiment intéressés au monde. Le monde extérieur, le monde matérialiste, ne les intéresse pas vraiment. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur vie intérieure, c'est aller en eux. Ce sont les valeurs spirituelles qui les intéressent. Mais le monde extérieur ne les intéresse pas. C'est pour ça que l'oriental et l'occidental sont très différents. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont besoin d'un mode d'évolution très différent. Nos ancêtres nordiques, eux, ils ont appris à descendre jusque dans la volonté. Leur esprit, leur jeu s'incarnait jusque dans les membres, jusque le plus profondément possible. Et donc, c'est eux qui ont développé ce courage. Par la suite, qu'est-ce que ça donnait aussi? Oui, que j'oublie pas une chose essentielle, c'est que le fait qu'ils s'incarnaient profondément, ça les liait à la terre. Et ça leur donnait même certains pouvoirs magiques en rapport avec la nature, dont on a retrouvé les derniers résidus chez les Celtes, par exemple, qui sont notamment des héritiers chez les druides, qui sont des héritiers de ces anciens nordiques. Mais les Celtes, c'est rien du tout par rapport à ces anciens nordiques, qui avaient développé ça 100 fois plus. Mais dans l'histoire connue, par nos chers historiens et scientifiques, on connaît que les Celtes. Mais avant, il y avait des gens qui avaient beaucoup plus que ça. Donc ça les liait à la terre et ça leur donnait certains pouvoirs, certaines capacités que nous n'avons plus depuis. Mais ça les liait à la terre, rappelons-nous bien ça. Ensuite, ces peuples nordiques, le temps est passé, et même encore plus. Et on est arrivé à une civilisation, disons, plus proche de la nôtre. Disons qu'on va dire l'époque plus ou moins christique ou post-christique, moyenâgeuse, on va dire. Et donc on a là des peuples qu'on commence à connaître, avec des pays qu'on connaît, les peuples scandinaves, puis les Irlandais, les Celtes, etc. Et ce sont ces gens-là qui en majorité ont émigré en Amérique du Nord. Ils ont apporté en Amérique du Nord ces qualités-là, même si elles étaient beaucoup moins fortes que les peuples nordiques, les premiers peuples nordiques l'avaient, n'empêche que ces peuplades du Nord qui sont venus habiter et coloniser l'Amérique du Nord, ils avaient ça en eux. Et c'est ça qui a donné aux Américains du Nord cet aspect, cette volonté héroïque, je dirais. Ce côté aventurier, ce côté héroïque. Que vous avez aussi, parce que vous habitez en Amérique du Nord, et pas pour rien. Donc en fait, ce que j'appellerais le courant spirituel du Nord, il est arrivé jusqu'ici, jusque dans toute l'Amérique du Nord. Et donc il est porteur de ces forces de courage, de bravoure, de ces forces de chevalerie qu'on a trouvées au Moyen-Âge en Europe, car la chevalerie européenne est issue aussi de ce courant du Nord, avec toutes ces valeurs de courage, de bravoure, de noblesse aussi, Hein, parce que quand l'esprit descend jusque dans la volonté, ça développe les vertus aussi, ça développe la noblesse aussi. Hein. Et donc toutes ces qualités qu'on retrouve dans la chevalerie, c'est ce qui vient aussi de ces peuples nordiques, et c'est ce qui est arrivé jusqu'ici. Seulement voilà, tout cela a été pris par, vous savez, le petit rigolo là qui dirige le monde, et qui s'est dit qu'il allait vous mater et faire de vous des esclaves. Et malheureusement, il est arrivé. Mais ça n'empêche que les vraies et bonnes valeurs de ce courant nordique, elles existent toujours en Amérique du Nord, et elles transparaissent quand même. Elles transparaissent, bah oui, ça se voit, bah chez les Américains, ça se voit notamment avec le sport, hein, c'est les meilleurs du monde dans le sport. On le trouve là, cette puissance qu'il y a dans leur volonté, dans leur corps éthérique, mais ça transparaît dans les arts mineurs, que sont par exemple le cinéma, ou la littérature de science-fiction, ou de fantasy, où il y a plein de héros. Il y a une soif d'héroïsme en Amérique du Nord qui est colossale. Pourquoi ? Eh bien, c'est comme si inconsciemment ils se rappellent qu'en fait, l'héroïsme, il est né dans ce courant du Nord dont ils sont les porteurs actuels. Et que quelque part, dans leur inconscient, il existe toujours. Il existe l'héroïsme. Sauf que, bah, si on apprend aux Américains du Nord, y compris vous bien sûr, à vivre dès leur plus jeune âge comme des poules mouillées ou des esclaves, eh bien, l'héroïsme, on le voit pas. Pourtant, il est là. Les gens adorent les films de héros, ils adorent Spider-Man, ils adorent l'héroïsme à travers la science-fiction et tout, et tout, et tout. Ils le cherchent, mais ils ne le vivent pas. Eh bien, je vous garantis que c'est dommage, parce que l'héroïsme, il est dans vos gènes, dans le courant du Nord, qui est venu jusqu'ici, jusqu'en Amérique du Nord, les Américains, les Canadiens, et même vous, les Québécois, vous l'avez. Vous avez cet héroïsme en vous. Seulement, voilà, si vous vous laissez faire, si vous ne le révélez pas, eh bien, vous le rêverez, et puis c'est tout. Et bon, vous rêverez de super-héros, vous direz, ah, c'est génial ce qu'ils font, c'est fabuleux, j'aimerais bien être comme ça. Eh bien, vous pouvez le devenir, au moins à un certain niveau, parce que vous portez ça en vous. Hein, une des caractéristiques des peuples d'Amérique du Nord, c'est ça, c'est qu'ils rapportent cet héritage de ces anciens nordiques. Courage, bravoure, générosité, force intérieure, capacité de se lier à la terre, à la nature, d'apporter des choses dans la nature, de communier avec la nature. Seulement voilà, imaginons toutes ces forces-là quand elles sont retournées du mauvais côté et donc prises par l'aspect matérialiste. Eh bien, les dons, les capacités de ces nordiques ou de leurs héritiers actuels qui sont doués, je dirais, pour se relier à la terre, eh bien, ça en fait des matérialistes. Si, parce que les anciens peuples nordiques, qui eux se lient à la terre, ils se lient à la terre depuis le spirituel, depuis leur faculté spirituelle. Mais imaginons qu'on coupe ces facultés spirituelles, qu'on les enlève, et qu'on a toujours des êtres humains capables de se lier facilement à la terre, mais sans le spirituel. Eh bien, ça fait des bons vieux matérialistes. Ça fait des gens qui sont toujours très doués pour se lier à la terre, mais coupés de Dieu, coupés du spirituel. Donc, ils sont matérialistes. Et c'est comme si, inconsciemment, ils savaient qu'ils doivent se lier à la terre, comme leurs ancêtres le faisaient. Mais ils ne peuvent se lier à la terre correctement que s'ils sont reliés au spirituel. Sinon, ils deviennent matérialistes. Ils s'unissent à la terre, mais sans le spirituel. Et donc, ils meurent dans la matière. Ils sont étouffés par la matière. Ils deviennent esclaves de la matière. Mais si ils peuvent développer ces capacités héroïques, vivre l'aventure héroïque, vivre la vie spirituelle de manière héroïque en développant tout ce potentiel qu'ils portent en eux, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ils vont vivre une évolution spirituelle, mais tout en étant capables de se lier à la matière, pour faire quoi? Pour la transformer. Car en fait, la mission de ce peuple-là est de transformer la matière. Et donc de transformer son corps physique et, y compris, transformer le monde et la matière en lumière. C'est ça leur but. C'est ça leur mission. Seulement voilà, ça n'est possible que s'ils sont liés au monde spirituel, comme en parlait Céline tout à l'heure, à leur ange et à leur âme céleste ou moi supérieure. Car ce n'est qu'avec cette force spirituelle qu'on peut se lier à la matière, qu'on peut se lier à la terre. Si on se lie à la terre uniquement en tant qu'être physique matériel, on se noie dedans, si je peux dire ça comme ça. Ou plutôt, on étouffe dedans, on meurt dedans. Alors que si on descend dans la matière, dans la terre, mais armé de cette bravoure, de cette puissance spirituelle qu'on fait descendre jusque dans notre volonté, là, on la transforme, la matière. Elle ne peut pas nous résister. C'est ce qu'on appelle la transformation du mal en bien ou la transformation de la terre en lumière. Et ça, c'est ce que le Christ a montré il y a 2000 ans. Hein, le Christ, il a montré, l'être humain peut transformer son corps physique en corps de lumière et donc transformer la matière en lumière. Eh bien, les gens issus du courant du Nord peuvent le faire. Voilà, c'est un peu le défi de tous les gens qui habitent en Amérique du Nord. Ils peuvent soit s'unir à la matière sans l'esprit, et là, ils meurent étouffés dans la matière, et donc, ils ratent leur vie. Ils vivent une vie pour rien, en fait. Soit, ils s'unissent à l'esprit, et ils descendent vraiment en tant qu'esprit avec le monde spirituel, dans la terre, dans la matière, et ils la transforment. Et là, ils jouent leur rôle héroïque, et là, ils remplissent leur mission. Et là, à ce moment-là, oui, ils peuvent vivre dans un monde matériel et une vie matérielle, mais ça ne sera plus une vie matérialiste. Ça sera une vie matérielle emplie du spirituel. Parce que c'est le spirituel qui donnera le sens à leur vie. Leur vie spirituelle donnera leur sens à leur vie et ils verront que leur sens de la vie les amène en effet à se lier à la terre et à la matière, mais non pas pour en être esclaves, mais pour la transformer. Parce que son temps est fini. La terre telle qu'on l'a connue, la matière telle qu'on l'a connue, le monde matérialiste tel qu'on l'a connu, son temps est terminé. Il faut passer à autre chose. Mais on ne pourra passer à autre chose que si on le décide et si on l'agit. Et vous êtes justement bien placé. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec tout ce qu'il faut dans les poches. Donc voilà. Vous pouvez commencer dès ce soir, si vous voulez, sur votre caisse de ferraille à roulettes, pour la transformer en lumière. Ça va prendre un certain temps, mais commencez avec ce que vous voulez, parce que vous êtes né pour ça. Vous n'êtes pas né pour le matérialisme, vous êtes né pour la victoire. La victoire de la lumière sur la matière. Ce qu'il faut pour réaliser ça, c'est le courage. Et le courage, il est dans le cœur. Voilà pourquoi Céline vous a expliqué comment ouvrir votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur grâce à la confiance, tout à côté de la confiance, vous allez trouver le courage. Bah, si je suis pas capable, c'est que j'ai pas confiance en moi. Ah, ça me paraît évident. Quand on n'a pas de courage, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Si on développe la confiance, on aura confiance dans les autres, mais on aura confiance dans le monde spirituel, dans l'ange, comme Céline l'a expliqué, et on aura confiance en soi. Donc on pourra développer le courage. Et en développant le courage, eh bien, si vous l'avez déjà essayé, vous l'avez forcément ressenti, quand on développe son courage, on ressent, waouh, justement un surplus d'énergie. On s'aperçoit qu'on était plus fort qu'on ne pensait. C'est ça, ce fameux surplus d'énergie qui vient de nos ancêtres nordiques. C'est ça qui permet de tout transformer. Parce que le corps éthérique, c'est un corps de lumière. Et si on développe le courage, ça veut dire qu'on fait rayonner ce corps éthérique. Et comme votre corps éthérique, il est complètement lié à votre corps physique, qu'il n'interpénètre de partout, si votre corps éthérique rayonne ce surplus de lumière, eh bien, c'est votre corps physique qui va être content, parce qu'il va en profiter. Et alors, vous allez vous dire, ouais, chouette, je vais être en santé tout le temps. Oui, bien sûr, vous serez en santé tout le temps, vous ne serez plus jamais malade, ça c'est certain. Et ça, vous allez croire, waouh, là je suis pas venu à la conférence pour rien, je sais comment je pourrais être en santé pour tout le temps. Mais ça c'est rien, c'est minuscule. Pour des gens qui font une vie spirituelle, qui travaillent sur eux, qui évoluent, le fait de ne jamais être malade, mais ça c'est le béaba. C'est un des tout petits bienfaits, je trouve, que la voie spirituelle peut vous apporter. Elle peut vous apporter mille fois plus que ça, parce que ça c'est rien du tout, être en santé. Ce que ça peut vous apporter, c'est transformer votre corps physique. Et même si, selon le temps qui vous reste dans cette vie, ça ne sera pas suffisant pour le transformer entièrement, si vous êtes d'accord que vous avez plusieurs vies, eh bien c'est pas grave. Le moindre effort que vous ferez dans cette vie, ça sera acquis. Indéfiniment, éternellement. Donc vous pouvez, là, dès ce soir, commencer à transformer votre corps physique. Et un jour ou l'autre, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, ce sera devenu un corps de lumière. Et à ce moment-là, quand vous vous rappellerez vos vies passées, vous vous rappellerez, tiens, ah oui, comment c'était? Ah oui, ça s'appelait l'Amérique du Nord. Ah oui, il y avait le Québec. Ah, il y avait une ville. Montréal. Ah oui, j'ai assisté à une conférence. Il y a un mec complètement délirant, il racontait un tas d'histoires, il parlait de tas de ferrailles à roulettes et tout, et c'était vraiment n'importe quoi, mais j'ai retenu un truc, que si on habitait là, c'est qu'on avait la force en soi de transformer son corps physique. Et bien je l'ai fait. Je me disais, ce mec, il est raide déjanté, je sais pas ce qu'il fume, mais alors franchement, jamais vu un mec aussi délirant. Mais ça, ça m'a touché, ça m'a marqué, et je l'ai fait. Et bien aujourd'hui, ça y est, 1247 ans après, je suis un corps de lumière. Et bien si vous faites ça, peut-être que ce mec complètement délirant, vous le rencontrerez et vous le reconnaîtrez, parce que lui aussi aura un corps de lumière. Et on sera beaucoup, enfin en tout cas j'espère, pas seulement les gens qui sont ici. Parce que heureusement, je ne suis pas tout seul à enseigner ça.